Alors, le maire peut revenir pour le point 18, où il y aura une suspension de séance et présentation d'un diaborama, toujours avec Sandra Robin.
Donc, présentation du budget primitif 2023 de la ville et des budgets annexes. On commence par le budget principal de la ville de Mâcon, s'équilibre comme suit. Synthèse du budget primitif 2023 pour la section de fonctionnement. Un total de budget de 83 799 493,95. Le total de section d'investissement 70 195 204,33. Soit un total du budget pour la section fonctionnement et la section d'investissement de 153 994 698,28. Le total des recettes de fonctionnement s'établit à 83 799 000 euros. Elle se décompose comme suit. On retrouve les impôts et taxes pour 39 186 000 euros. Le résultat de fonctionnement reporté pour 25 959 000 euros. Les dotations et participations pour 10 558 000. Les produits des services du domaine et ventes divers pour 5 018 000. Un focus sur les impôts et taxes qui s'élève à 39 186 000 euros, qui s'analyse comme suit. On retrouve les impôts directs locaux donc pour 23 562 000 euros, l'attribution de compensation pour 13 694 000 euros, la dotation de solidarité communautaire pour 669 000 euros, la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 650 000 euros et la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 600 000 euros. Les impôts directs, donc un provisionnel qui s'établit à 23 562 000 euros. Ils sont endossés aux bases provisionnelles modifiées par le service de l'État présenté dans le tableau ci-dessous, donc qui s'établissent pour la taxe d'habitation sur les logements vacants et résidences secondaires sur la base prévisionnelle 2023 de 3 120 598, soit une évolution de 7,10% par rapport au réel 2022. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc une base prévisionnelle 2023 de 55 202 000, soit une évolution de 5,10 par rapport au réel de 2022. Et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc la base prévisionnelle 2023, 243 800, soit une évolution de 6,21 par rapport au réel 2022. Aux bases précédemment évoquées s'affectent les taux de fiscalité communaux. Donc le budget 2023 est présenté avec une stabilité des taux communaux pour la, comme le présente le tableau projeté. Donc les taux communaux pour 2023, donc pour la taxe d'habitation sur les logements vacants et résidences secondaires, 16,73%. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 45,71%. Pour les taxes foncières sur les propriétés non bâties, 33,16%. Donc stabilité par rapport à 2022. Analyse des autres impôts. Donc on retrouve l'attribution de compensation prévisionnelle pour 2023 de 13 694 000 euros contre 14 130 000 euros en 2022. La différence s'expliquant par la variation sur la fréquentation petite enfance. La dotation solidarité communautaire, donc imprévisionnelle pour 2023, de 696 000 euros, avec le premier volet du pacte financier fiscal conclu en 2022 entre MBA et ses communes membres. La taxe électricité est estimée à 600 000 euros contre 620 000 en 2022. La taxe additionnelle aux droits de mutation est évaluée à 650 000 euros, stable par rapport à 2022. Autre recette, les dotations et participations. Donc, un prévisionnel de 10 558 000 euros. Elles s'établissent comme suit. On retrouve les dotations forfaitaires pour 4 948 000 euros. La dotation de solidarité urbaine, pour 2 641 000 euros. La compensation au titre des exonérations des taxes foncières pour 2 065 000 euros. Et les autres dotations pour 592 000 euros. Un focus sur l'analyse des dotations et participations. Elles sont principalement constituées des dotations suivantes et je vous laisse prendre connaissance du tableau projeté. On peut voir qu'en l'absence de la notification des dotations pour 2023, les dotations prévisionnelles de 2023 correspondent à celles encaissées en 2022, hormis pour l'allocation compensatrice notifiée. Les autres dotations s'établissent à 592 000 euros contre 718 000 euros en 2022, comprenant les participations de l'État, de la région, du département et de la CAF. Après analyse des impôts et taxes, les dotations et participations, les produits des services et du domaine, pour 5 018 000 euros, les provisions de recettes des services 2023 sont principalement adossées au montant réel perçu en 2022. Par ailleurs, il est important de rappeler la reconduction en 2023 des tarifs dits sociaux, et cela depuis la baisse de ces tarifs en 2009, mesure qui bénéficie tout particulièrement aux familles dont les enfants fréquentent les restaurants scolaires ainsi que les structures périscolaires. On continue l'analyse des recettes avec les autres produits de gestion courante pour 1 645 000 euros. Avec une évolution par rapport à 2022 justifiée principalement par les revalorisations indiciaires des clauses des contrats ou des baux. Autres produits, les produits financiers pour 6 000 euros, les produits exceptionnels pour 129 000 euros et les atténuations de charges pour 150 000 euros. On arrive à la synthèse sur les recettes de fonctionnement. Donc, elles s'établissent à 83 799 000 euros en intégrant les opérations réelles pour 56 693 000 euros, les opérations d'ordre pour 1 147 000 euros et les résultats du fonctionnement à fin 2022 de 25 959 000 euros. Après l'analyse des recettes, analyse des dépenses de fonctionnement. Elles s'établissent à 83 799 000 euros. Elles se décomposent comme suit. On retrouve les charges de personnel et frais assimilés pour 32 530 000 euros. Le virement à la section d'investissement pour 20 500 000 euros. Les charges à caractère général pour 16 480 000 euros. Les autres charges de gestion courante pour 4 442 000 euros. Analyse des dépenses à caractère général, elle s'élève à 16 480 000 euros, une progression des charges générales des services entre 2022 et 2023 de plus de 1 299 000 euros, qui s'explique principalement par la hausse des dépenses de fuite, gaz, carburant, chauffage urbain, par la hausse des dépenses d'alimentation, la loi Egalim et la hausse de la fréquentation, par la hausse des coûts d'entretien du patrimoine, augmentation des prix des fournitures. Recherche de tout moyen pour optimiser et rationaliser la dépense publique et poursuivre l'investissement dans l'aménagement thermique des bâtiments communaux, mais aussi dans les équipements moins énergivores afin de réduire le coût de la facture énergétique. Autre charge importante pour la collectivité, les charges de personnel qui s'établissent à 32 530 000 euros. Avec une progression des dépenses de plus de 2 455 000 euros entre 2022 et 2023, liée entre autres à l'effet report en année pleine de l'augmentation du point d'indice en juillet 2022, plus du SMIG en 2022. L'augmentation du SMIG à plus 1,81% au 1er janvier 2023 et les nouvelles grilles indiciaires des catégories B et C. L'effet de glissement vieillesse technicité lié aux avancements d'échelon, l'augmentation du taux de cotisation patronale du CNFPT pour les apprentis et l'augmentation du taux de cotisation patronale accident du travail des agents contractuels. On continue dans les charges avec les autres charges de gestion courante qui s'établissent à 4 442 000 euros. Donc, ce poste intègre, entre autres, les aides financières allouées au tissu associatif pour 3 696 000 euros et le maintien de l'enveloppe dédiée aux associations auxquelles se rajoutent les aides logistiques en matériel et mises à disposition de locaux ou de personnel. Autre charge, les charges financières qui s'élèvent à 767 000 euros, principalement constituées des charges financières sur encours de dette majoritairement à taux fixe, taux moyen prévisionnel 2023 à 1,36. On continue avec les charges exceptionnelles qui s'établissent à 2 182 000 euros, comprenant entre autres les redevances des délégataires de services publics, les crédits d'intervention des élus et la subvention d'équilibre au budget annexe équipement touristique et de loisirs. Et pour terminer les charges du compte primitif 2023 du budget principal, les atténuations de charges qui s'élèvent à 100 000 euros, comprenant les dégrèvements de taxes d'habitation sur les logements vacants. On arrive à la synthèse des dépenses de fonctionnement inscrites au budget primitif 2023 qui s'établit à 83 799 000 euros en intégrant les opérations réelles pour 59 370 000 euros, les opérations d'ordre pour 3 929 000 euros, le virement en section d'investissement de 20 500 000 euros. Après l'analyse de section de fonctionnement, analyse de la section d'investissement, donc les recettes d'investissement s'établissent à 70 195 000 euros. Elles se décomposent comme suit. On retrouve le virement de la section de fonctionnement pour 20 500 000 euros, les emprunts et dettes assimilés pour 20 millions d'euros, les subventions d'investissement pour 14 636 000 euros, les opérations patrimoniales pour 4 949 000 euros, les opérations d'ordre pour 3 929 000 euros. Avec un financement des investissements 2023 maîtrisé, un autofinancement de 24 429 000 euros, la reprise de résultats excédentaire 2022 de 2 481 000 euros, des subventions d'investissement pour 14 636 000 euros, des recettes diverses, la FCTVA plus la taxe d'aménagement plus les cessions pour 3 700 000 euros. Un nouveau emprunt, dont 14 millions souscrits en 2022, mobilisé en juin 2023 pour 20 millions d'euros. Et des opérations patrimoniales pour 4 949 000 euros. La synthèse des recettes d'investissement inscrites au budget primitif 2023 s'établit à 70 195 000 euros, intégrant les opérations réelles pour 17 033 000 euros, le report de crédit de 2022 de 21 303 000 euros, les opérations d'ordre et patrimoniales pour 8 878 000 euros, un résultat d'investissement excédentaire 2022 de 2 481 000 euros et un autofinancement de 20 500 000 euros. Après analyse des recettes d'investissement, les dépenses d'investissement qui s'établissent à 70 195 000 euros, elles se décomposent comme suit. Donc on retrouve les immobilisations en cours pour 35 655 000 euros, les immobilisations corporelles pour 17 154 000 euros, les emprunts et dettes assimilés pour 6 750 000 euros, les opérations d'ordre et opérations patrimoniales pour 6 096 000 euros et les subventions d'équipement versées pour 2 650 000 euros. Le total des dépenses d'équipement 2023 s'établit à 38 165 000 euros. Donc, présentation avec quelques photos, la réhabilitation de la place aux herbes. La réhabilitation de la place poissonnière. La restructuration de l'îlot des Minimes, achèvement de l'aménagement des abords. Restauration de l'îlot des Minimes, achèvement de l'extension des halles marchandes, de la résidence senior, de la maison médicale et du parking souterrain. Achèvement de l'aménagement de la rue Carnot. La construction d'un nouveau restaurant scolaire à Sensey. Aménagement d'un terrain de padel, mise en accessibilité et rénovation énergétique de la MJC de l'Héritant, aménagement d'une salle de spectacle dans l'ancien cinéma des Cordeliers, réhabilitation et mise en sécurité de la rue Mermoz dans le cadre du programme En Rue sur le quartier de la Chanet Résidence, réhabilitation du vieux Saint-Vincent, poursuite des études. La synthèse des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2023 s'établit à 70 195 000 euros, intégrant Les opérations réelles, 45 268 000 euros. Les restes à réaliser au 31 décembre 2022, 18 831 000 euros. Les opérations patrimoniales de 4 949 000 euros. Les opérations d'ordre de 1 147 000 euros. Une situation de l'endettement de la ville avec des encours de dette au 1er janvier 2023 de 48 278 000 euros, 93. Des remboursements 2023 de 6 724 000, 80 euros. Une souscription 2023 et mobilisation de l'emprunt souscrit en 2022 pour 20 millions d'euros. Des charges financières budgétées pour 730 000, 14 euros et avec un taux moyen de 1,36% avec une base en cours au 1er janvier 2023. Le budget primitif 2023 qui vient d'être présenté est en cohérence avec les préceptes chers à l'équipe municipale et mis en œuvre depuis 2001. Un programme d'investissement volontariste, le maintien de l'effort sur certains tarifs à caractère familial et social, la poursuite de l'accompagnement financier et logistique des associations locales, un endettement assurant une bonne capacité de désendettement de la ville, une gestion rigoureuse des dépenses publiques, une fiscalité ménage maîtrisée et stable depuis 2016. Après le budget primitif de la ville, les budgets annexes. Donc le budget opérationnel, industriel et commercial, le budget primitif de l'année 2023 se résume comme suit. Pour la section de fonctionnement, un total de budget de 592 429,91 euros. Un total de sections d'investissement pour 1 602 982,30 euros et un total du budget donc pour la section de fonctionnement plus la section d'investissement de 2 195 412,21. Pour la section de fonctionnement, les recettes, elles s'établissent à 592 000 euros. Elles se décomposent comme suit. On retrouve les ventes des produits fabriqués et prestations de services pour 412 000 euros. L'excédent de fonctionnement reporté pour 125 000 euros, les reprises sur amortissement, dépréciation et provision pour 28 000 euros et les opérations d'ordre pour 27 000 euros. Après les recettes, les dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 592 000 euros, on retrouve les charges à caractère général pour 295 000 euros, les opérations d'ordre pour 197 000 euros, les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions pour 30 000 euros, les autres charges de gestion courante pour 28 000 euros. Après la section de fonctionnement, analyse de la section d'investissement. Donc, les recettes d'investissement s'établissent à 1 603 000 euros. Elles se décomposent comme suit. Donc, on retrouve l'excédent d'investissement reporté pour 1 230 000 euros. Les opérations d'ordre pour 198 000 euros, les subventions d'investissement pour 150 000 euros. Après les recettes, les dépenses d'investissement qui s'établissent à 1 603 000 euros et se décomposent comme suit. Les immobilisations corporelles pour 1 429 000 euros, les emprunts et dettes assimilés pour 142 000 euros, les opérations d'ordre pour 27 000 euros. Les investissements programmés pour 2023. L'achèvement de l'extension des locaux mis à disposition de l'association Les Jardins de Cocagne. Les travaux d'aménagement du bâtiment industriel de Locher. Les travaux d'aménagement des locaux affectés aux boutiques éphémères. La provision pour aménagement futur non affecté. Pour terminer ce budget, un focus sur la situation de la dette. Un encours de dette au 1er janvier 2023 de 636 000 euros, aucune mobilisation d'emprunt sur l'exercice, des remboursements d'emprunt pour 117 000 euros, un encours constitué exclusivement d'emprunt à taux fixe et un taux moyen des charges financières de 1,23%. Et pour terminer sur les budgets annexes, donc le budget d'équipement touristique et de loisirs, le budget principal de l'année 2023 se résume comme suit. Pour la section de fonctionnement, un total de budget de 4 084 147. Total de la section d'investissement, 2 060 348,93. Et donc un total de budget pour la section de fonctionnement et la section d'investissement de 6 144 495,93 euros. Pour la section de fonctionnement, les recettes s'établissent à 4 084 000 euros et se décomposent comme suit. On retrouve les ventes des produits fabriqués et prestations de services pour 1 544 000 euros, des produits exceptionnels pour 1 272 000 euros, les reprises sur amortissement, dépréciation et provisions pour 986 000 euros et les opérations d'ordre pour 235 000 euros. Après les recettes, les dépenses de fonctionnement qui s'établissent à 4 084 000 euros et se décomposent comme suit. Donc, les charges à caractère général pour 2 035 000 euros, les charges de personnel pour 733 000 euros, les opérations d'ordre pour 563 000 euros et le virement à la section d'investissement pour 517 000 euros. Après la section de fonctionnement, analyse de la section d'investissement. Donc, les recettes d'investissement s'établissent à 2 060 000 euros et se décomposent comme suit. On retrouve les emprunts et dettes assimilés pour 759 000 euros, les opérations d'ordre pour 563 000 euros, le virement de la section de fonctionnement pour 517 000 euros et un excédent de fonctionnement capital et des excédents de fonctionnement capitalisés pour 221 000 euros. Après les recettes, les dépenses d'investissement qui s'élèvent à 2 060 000 euros et se décomposent comme suit. Donc les immobilisations corporelles pour 707 000 euros, les emprunts et dettes assimilés pour 645 000 euros, les immobilisations en cours pour 292 000 euros et les opérations d'ordre pour 235 000 euros. Après avoir analysé la section de fonctionnement, on analyse la section d'investissement avec des investissements programmés en 2023 à hauteur de 1 019 000 euros. Pour le camping, l'achèvement de la réhabilitation de la toiture du bâtiment d'accueil et du restaurant, l'aménagement d'un abri à vélo. Pour le port de plaisance, l'aménagement du bâtiment dédié à une activité de restauration, le prolongement de la cale de mise à l'eau et la sécurisation de la mise à l'eau côté Saône, l'aménagement d'un abri à vélo. Pour l'aérodrome, le lancement des études dans le cadre de la construction d'un nouveau hangar pour l'accueil aéronef et l'installation d'un distributeur de carburant à carte. Pour terminer ce budget, un focus sur la situation de la dette, avec un encours de dette au 1er janvier 2023 de 4 837 000 euros, une mobilisation d'un emprunt en 2023 de 759 000 euros, des remboursements des emprunts de 645 000 euros, des encours de dette composés de 93% d'emprunts à taux fixe et 7% à taux variable, et un taux moyen des charges financières de 1,05%. Je vous présente maintenant le délibéré à l'issue de cette présentation. Donc, les décisions proposées au Conseil municipal sont d'arrêter le budget primitif 2023 de la ville de Mâcon et de ses budgets annexes, d'approuver le montant des chapitres des sections de fonctionnement et d'investissement du budget principal et des budgets annexes, d'approuver les budgets suivants et de valider les plans de financement prévisionnels correspondants faisant l'objet de demandes de subventions au fonds de concours. Programme d'extension de la vidéoprotection 2023, dotation politique de la ville 2023 avec l'aménagement d'une maison France Service, de la maison de la justice et du droit des locaux associatifs au sein du quartier des Saugeray-Gautria, la tranche 2, création d'un point enfant-loisir au sein du quartier des Blanchettes, création d'un point enfant-loisir au sein du quartier de Biou, modernisation de l'éclairage public de la ville de Mâcon, la tranche 2023, rénovation thermique de l'école maternelle Marie-Laurencin, rénovation thermique de l'école annexe, rénovation énergétique du centre omnisport de Mâcon, aménagement d'un mur végétal au sein de la place aux herbes, isolation thermique par l'extérieur du restaurant scolaire et du centre de loisirs Les Trappistines, travaux de rénovation énergétique sur la maison des jeunes de la culture de l'Héritant, réhabilitation de l'ancienne cathédrale Saint-Vincent, organisation des rendez-vous de l'emploi, de la formation et de la création 2023, acquisition de matériel facilitant l'organisation de festivités dans les quartiers, aménagement de la rue Mermoz et modernisation des systèmes d'information de la médiathèque.
Merci. Des questions, Madame.
Monsieur le maire, chers collègues, dans ce budget primitif 2023, page 19, nous apprenons par l'annexe 2 de la section d'investissement les montants du programme d'extension de la vidéoprotection pour l'année en cours. Il s'agit d'installer pas moins de 29 nouvelles caméras pour un budget total de 246 000 euros, dont la moitié à notre charge. Soit. Mais justement, pourriez-vous être un peu plus précis sur cette nouvelle dépense et surtout sur celles qui l'ont précédée ? L'exercice 2022 voté précédemment fait état de multiples achats de caméras, donc si j'ai bien compté 51 au total, tout au long de l'année à des tarifs très variables allant de 3 000 à 16 000 euros, sans plus de précision, pour un budget d'environ 425 000 euros. Il est en revanche beaucoup plus difficile d'estimer les coûts d'entretien et de maintenance. Pourrions-nous donc avoir connaissance, en toute transparence, de ce que coûtent réellement ces innombrables caméras, ainsi que les services qui leur sont rattachés, maintenance, surveillance, centre de supervision, etc. Que ce soit pour 2022 ou 2023, quel montant d'entretien est prévu ? De la même manière, compte tenu du caractère pluriannuel de ce programme, pourriez-vous nous faire un état, maintenant presque à mi-mandat, de l'efficacité réelle de ces caméras, nombre d'affaires résolues, nombre d'enquêtes réellement facilitées par leur usage, baisse ou non des incivilités depuis leur installation. J'ai bien lu, comme tout le monde, l'article de presse grand public paru la semaine dernière. S'ils vendent sans réserve les mérites de ce dispositif en s'appuyant sur quelques faits divers récents, il ne s'agit en aucun cas d'un véritable argumentaire et encore moins d'une analyse comparative entre différents territoires. Pourtant, il y a un an, lors d'une intervention semblable, vous nous aviez indiqué que vous seriez en mesure de nous présenter ce type de données. Tous les élus qui doivent se prononcer ce soir sont en droit, puisqu'ils votent les budgets, d'avoir une information autrement plus précise qu'un dossier de presse à destination du grand public. Donc, mesdames et messieurs, qu'en est-il réellement de cet état des lieux à l'heure où nous engageons notre collectivité dans de nouvelles dépenses en matière de vidéosurveillance ? Je vous remercie.
D'autres interventions ? Madame ?
Monsieur le maire, chers collègues, Mâconnaises, Mâconnais, c'est donc un budget prévisionnel très ambitieux en montant, 12 millions de plus que sur le primitif 2022, et en annonce qui est présentée aux Mâconnaises et Mâconnais. À ce propos, nous demandons à nouveau de présenter les projets d'investissement selon le dispositif des autorisations de programme crédit de paiement qui donne une réelle lisibilité annuelle des investissements prévus. Ce dispositif de présentation a également été recommandé par la Cour régionale des comptes dans son rapport d'observation dont le Conseil municipal a pris acte en juin 2022. Alors donc, un projet ambitieux en prévision d'investissement, mais dont on sait dès à présent qu'ils ne seront pas réalisés en 2023. Une seule certitude, Mâcon sera prête pour les JO de 2024. Les équipements sportifs seront plus nombreux et plus modernes, quoi qu'il en coûte. En effet, le sport, qui représente 34,8% du programme d'investissement, reste votre priorité. Les investissements prévus dans le domaine du développement durable environnement, avec 2,68%, soit moins d'un million d'euros, signent votre faible intérêt pour ce domaine. Le dernier rapport du GIEC invite pourtant les décideurs politiques à orienter les investissements sur l'action climatique. Vous semblez y être sourd. 34,8% pour le sport, c'est du gaspillage d'argent public. Alors nous voilà devant la responsabilité de voter un budget de 161 millions d'euros, dont 88 millions d'euros en fonctionnement, 73 millions d'investissements. Le budget prévisionnel décrit comment seront dépensées les contributions des habitants. Nous pouvons affirmer sans beaucoup de risques qu'une partie conséquente du budget de fonctionnement viendra grossir le résultat cumulé. Quant aux investissements, est-ce qu'ils seront utiles aux habitants ? Les emprunts que la collectivité s'apprête à mobiliser, 20 millions d'euros, vont-ils financer des équipements utiles et pérennes ? Les familles mâconnaises se posent d'autant plus cette question qu'ils voient la ville en travaux perpétuels, y compris sur des secteurs aménagés récemment. Emprunter 6 millions en 2023 est-il nécessaire compte tenu de la hausse des taux et des excédents budgétaires de 28 millions d'euros cumulés. Parallèlement, vous ne donnez pas de perspective de développement des services aux Mâconnais, les assurant simplement du maintien de l'effort sur certains tarifs à caractère familial et social. L'effort de qui ? De la majorité ? L'effort de rétablir une forme d'égalité ? Vous êtes trop bon. En ces temps d'incertitude sur la capacité des familles à faire face aux dépenses contraintes et à la réduction de leur reste à vivre, vous manquez cruellement d'anticipation sur l'explosion des besoins sociaux. Et c'est ainsi que cette année encore, point d'analyse des besoins sociaux de programmer. Celle-ci est obligatoire depuis 1995. C'est une aide utile pour adapter le budget de notre centre communal d'action sociale. Sachez, mesdames et messieurs, que la majorité municipale a prévu de subventionner le budget des équipements touristiques à hauteur de 1 272 000 euros. Ces équipements, camping, port de plaisance, aéroport, centre équestre de Chintré, vous n'en profiterez que très peu directement et même indirectement par l'activité économique qu'ils peuvent théoriquement soutenir. Parallèlement, le budget du CCAS percevra une subvention d'1 million d'euros en constante stabilité depuis au moins 2014, alors même que la population mâconnaise augmente et que l'inflation fait flamber les prix. Plus de 15% d'augmentation des prix de l'alimentation en mars 2023, et vous vous lamentez de la loi Egalim qui permet pourtant aux usagers de la cuisine centrale, les enfants, les personnes âgées et personnes dépendantes, de mieux se nourrir. Alors, monsieur le maire, je vous entends déjà dire, comme vous aimez à le répéter, que vous préférez développer l'emploi plutôt que l'action sociale. Comme si cela s'opposait, mais non. Il faut faire les deux. Ce sont les piliers du développement humain durable. C'est ainsi que la mission économique doit voir ses effectifs et moyens renforcés pour soutenir l'activité des commerçants de la ville. Le droit de préemption commerciale doit être débattu par le conseil municipal. Oui, débattu par le conseil municipal. L'objectif étant de maintenir ce tissu économique porteur d'emplois non délocalisables et de savoir-faire qui doivent perdurer. Pour une offre commerciale équilibrée et cohérente, le commerce de bouche doit être soutenu et se développer. Venons-en à présent aux aménagements et à la prise en compte de la nécessité d'adapter la ville aux effets du réchauffement climatique. La pierre de Comblanchien permettra assurément un albédo intéressant, mais ce pouvoir réfléchissant des surfaces ne réfléchira pas suffisamment les habitations. Par contre, il est prouvé que les arbres dans les villes permettent de réduire de 4 à 5 degrés la température au sol tout en contribuant efficacement à protéger la ressource en eau. Il est important d'arborer partout où c'est possible dans la ville et sinon de mettre en œuvre d'autres solutions. Les parkings drainants, perméables, en sont un exemple. Le CEREMA, auquel nous avons adhéré, est un appui précieux sur ces questions. La dotation politique de la ville est utilement investie sur deux quartiers prioritaires de la ville, les Saugeray-Gautria et les Blanchettes. Les projets présentés en annexe 2 faisant l'objet de demandes de subventions et ou de fonds de concours mettent en évidence le retard considérable pris en matière de rénovation thermique et nous incitent à interroger le diagnostic énergique des bâtiments publics, propriétés communales. Là encore, que d'opacité sur les travaux accomplis et ceux restant à faire. Pour conclure, l'urgence climatique et sociale nous pousse à isoler massivement les bâtiments, cesser d'imperméabiliser les sols pour préserver la ressource en eau, aller beaucoup plus loin que ce qu'impose la loi Egalim pour manger mieux, manger local et biologique, apaiser la ville pour y rendre les déplacements moins dangereux et moins polluants, soutenir les projets d'économie sociale et solidaire et les projets innovants ayant trait à la lutte contre le réchauffement climatique, soutenir l'économie de la production agricole maraîchère biologique, réaliser l'analyse des besoins sociaux et développer les aides et services adaptés. Rien de cela n'est prévu dans le budget prévisionnel présenté. Celui-ci est à contre-courant de ce qui nous semble juste et utile d'engager. Nous pensons que ce budget nous conduit dans l'impasse.
Merci. Autre explication ? Tu veux dire un mot ?
Donc, je vais répondre à Madame Amaro concernant les caméras de vidéoprotection. Donc vos questions sont plutôt au niveau technique et nous avons fait une commission des finances lundi dernier. Vous n'étiez pas présent et je pense que c'était à cette occasion-là qu'on aurait pu vous donner des précisions.
Je ne fais pas partie de la commission finances, donc...
Non, mais vous n'étiez pas représenté, c'est pas vous, mais vous étiez pas votre groupe n'était pas représenté.
Alors, si je peux me permettre, je ne vais plus à aucune commission. Je vous l'ai annoncé, je l'ai annoncé officiellement à vos services, parce que je me refuse à courir en sortant du travail pour assister à une série de rapports dépourvus de leurs annexes, dépourvus de toute information précise. Et chaque fois que j'ai pu demander ces documents à toutes les commissions, ça a été au compte-rendu, on m'a bien annoncé qu'effectivement ces éléments me seraient transmis rapidement et ça n'a jamais été le cas. Donc effectivement, pour ma part, et ça n'engage pas l'ensemble du groupe, je n'assiste plus à aucune commission, mais on est ici dans un lieu d'information et de débat. Donc les commissions visent à préparer notre assemblée de ce soir. Elles ne s'y substituent en aucun cas. Et l'information que je demande une fois de plus... Ben, j'aimerais la voir, au même titre que nous sommes tous en droit de la voir ici. Je vous remercie.
Bien, je vais vous répondre sur la vidéoprotection. C'est un sujet que je connais bien, puisque dans une vie antérieure, j'étais le rapporteur de la loi. Et on a toujours vu les gens de gauche et d'extrême gauche se battre contre les vidéoprotections en expliquant que ça servait à rien, que ça déplaçait la délinquance et que ça coûtait cher. Donc que vous repreniez aujourd'hui ce vocabulaire me présente un avantage pour moi, c'est que ça me rajeunit d'une vingtaine d'années. Mais indépendamment de cet aspect personnel, la vidéoprotection présente un avantage considérable, c'est que dans les secteurs où elle est installée, un, quand il y a des méfaits, on peut les résoudre. Quand je dis « on », c'est la force de police nationale, puisque la police municipale n'a pas de force d'instruction, mais a pu régler un certain nombre de problèmes. On a même eu d'ailleurs un vol qui a été réglé dans la même nuit. Et deuxièmement, empêche un certain nombre de délits. Alors il est évident qu'on peut se battre éternellement, puisqu'à partir du moment où ils empêchent, on n'a pas le nombre de délits. Mais ce qu'on sait... c'est qu'où il n'y a pas de vidéoprotection, il y a beaucoup de délits. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à l'origine du projet de vidéoprotection, tel que ça s'appelait à l'époque, il y a la différence avec la vidéosurveillance, toutes les communes de gauche n'en voulaient pas. Mais tout le monde avait dit, c'est stupide, c'est de l'argent qui ne sert à rien, et on n'en veut pas. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les communes ont changé, et ce qui est assez frappant, c'est que c'est toutes les communes de gauche qui font plus de demandes auprès des préfets de leur département pour demander des subventions, parce qu'elles sont en retard par rapport aux autres communes qui étaient parties en amont. Et qu'aujourd'hui, dans tous les projets d'aménagement qu'on fait, on entre la vidéoprotection. Alors la question de Mme Côté-Sorabella, si vous ne trouvez pas les articles financiers, parce que ça rentre dans le projet d'aménagement. Et pour la place aux herbes, comme pour la place poissonnière, dans les crédits d'aménagement, il y a les caméras qui vont être installées. Et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre. Ces caméras, on les installe pas au hasard. On les installe en accord avec les services de police nationale. Puisque l'intérêt, et je remercie Maxime Plat, qui est notre intermédiaire avec la police nationale, qui fait un excellent travail, qui consiste à dire qu'il faut faire un parcours à l'intérieur de la ville. Le but, ce n'est pas forcément de voir l'infraction par elle-même, mais c'est de voir la personne ou les véhicules utilisés lors de l'infraction. Donc on avait commencé avec Gérard Collomb il y a très longtemps, quand on a fait le chauffage urbain, on avait profité que les voiries étaient ouvertes pour passer des gaines, et on continue maintenant, et on a tout un réseau qui va se faire. Et ce qui permet d'avoir un centre de vidéoprotection qui est ici à la mairie de Mâcon, et qui est, et là je remercie encore une fois Maxime Plat, qui est transmis à la police nationale avec une autorisation qui a été donnée pour la ville de Mâcon de 72 heures au profit de la police nationale. Ce qui fait que maintenant, nous on ne sait même plus, et on n'a pas le savoir puisque les instructions sont secrètes, l'utilisation qu'en fait la police nationale dans ses enquêtes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont demandeurs et qu'ils nous l'ont demandé. Et ce que je sais aussi, c'est que dans une réunion, ils nous ont demandé un certain nombre d'implantations de caméras sur un certain nombre de secteurs de la ville de Mâcon. Et pour vous conforter dans votre désir d'effectivement ne pas être d'accord, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'on s'est inscrit pour acheter des caméras qui permettront de verbaliser automatiquement le niveau sonore des véhicules. Ce qui veut dire que celles et ceux de véhicules qui feront un certain nombre de bruit dans les rues de Mâcon seront en verbalisation automatique et recevront l'amende qui leur arrivera. Ces caméras aujourd'hui sont autorisées, mais pas en système de verbalisation. Il y avait un essai qui était valable jusqu'au 31 décembre 2022. Il est prolongé jusqu'au 30 juin 2023. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que je me suis inscrit et dès que le ministère de l'Intérieur, par arrêté ministériel, prendra l'autorisation de cette verbalisation, la ville de Mâcon achètera une ou deux caméras pour lutter contre le bruit qui est effectivement un des fléaux maintenant dans les villes. Deuxième chose, j'achèterai aussi, et je proposerai de l'acheter dans les crédits, d'avoir une caméra longue distance qui permet de prendre à plus de 400 mètres et de voir comme si on était à côté de l'objectif pour pouvoir faire un certain nombre de verbalisations, de contrôler un certain nombre de trafics qui existent dans nos villes. Donc voilà ce que je veux dire sur la vidéoprotection. Et sachez que j'en étais un partisan lorsque j'étais sénateur, j'en suis encore un partisan, un homme convaincu aujourd'hui. Pour ce qui concerne le budget, qu'on ne soit pas d'accord, Mme Conté-Sorabella, entre votre vision et la mienne, et j'allais dire la nôtre pour la majorité municipale. Ce qui m'inquiéterait beaucoup, c'est que je sois d'accord avec vous. Ça montrerait que subitement, je suis devenu front de gauche et membre du Parti communiste. Et je compterais sur mes amis autour de moi pour me remettre immédiatement dans le droit chemin. Effectivement, ce droit chemin, je le conduis depuis un certain nombre d'années maintenant dans différentes instances que j'ai eu l'honneur de présider ou l'honneur de participer, qui consiste à avoir comme ligne de conduite. La première, avoir une gestion extrêmement rigoureuse. Cette gestion, on l'a. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes qui nous dit d'ailleurs, et je le dis de tête, je crois que c'est à peu près les propos, que les dépenses sont parfaitement maîtrisées du budget municipal. Et ce qui nous permet d'investir, et pas d'investir en empruntant pour rien, mais d'investir dans des choses qui, elles, pour elles-mêmes, créent une richesse pour la collectivité et à un taux d'intérêt important, pour nous, c'est-à-dire très faible. Et c'est pour ça qu'on a lancé un grand budget d'emprunt. Et je remercie les services, Mme Pelut qui s'en occupe, qui négocie tous les contrats d'emprunt, pour bien voir que c'est cette année qu'il faut emprunter le maximum. Et d'ailleurs, ce n'est pas même nous qui le disons, c'est le délégué général à l'aménagement du territoire qui a dit que les emprunts 2023 doivent être faits maintenant, et notamment dans un souci écologique, pour notamment lutter contre le gaspillage de l'énergie. C'est exactement ce qu'on fait. Et il nous conseille d'ailleurs, et c'est le directeur de la Caisse des dépôts qui le confirme, que les prêts reste à des taux acceptables cette année, on ne sait pas exactement où on va en 2024 ou 2025, voire en 2026. C'est pour ça qu'on a gonflé la dette pour espérer d'avoir le meilleur taux possible. Et d'ailleurs, avec ces emprunts-là, le taux que vous avez annoncé tout à l'heure, qui suivant les budgets va de 1,04 à 1,54, devrait évoluer de 10 ou 20 centièmes. Donc pas grand-chose. Donc on a intérêt à garder cette dette, quitte à l'augmenter et après stabiliser 2024, 2025, voire 2026. C'est donc la trajectoire politique que nous menons. Dans ces investissements, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire des investissements qui correspondent à la qualité de vie des Mâconnais. Alors, je ne vais pas reprendre tous les projets. Sandra Robin l'a fait de manière excellente en rappelant l'ensemble des investissements, mais cet objectif a effectivement l'emploi. L'emploi, parce que c'est la chose fondamentale. L'emploi, c'est l'agglomération qu'il fait, et on a un taux de chômage qui est extrêmement bas sur l'ensemble de l'agglomération. On a aujourd'hui près de 2000 emplois qui sont à disposition des gens, donc c'est une politique qui a fait l'agglo avec l'ensemble de mes collègues maires. Et nous, ville de Mâcon, on doit améliorer la qualité de la vie. Et cette qualité de la vie, elle passe par la demande que l'on a. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, et je pense que vous nous en rendrez gré, que la population de la ville de Mâcon, depuis 3 ans, augmente régulièrement et qu'on passe au-dessus de 35 000 habitants. Si vous faites une projection que vient de faire l'INSEE, on arrivera aux 40 000 habitants avant 2040, chiffre que j'avais dire retenu dans le projet de PLU et que nous maintiendrons dans le projet de PLU, puisque nous avons là encore un certain nombre de projets, d'entreprises qui veulent venir, de cadres qui veulent venir à Mâcon parce qu'il y a une qualité de vie qui s'y rapproche. Alors vous nous dites, oui, vous ne plantez pas des arbres. Dans le centre-ville, on plante des arbres où on peut les trouver. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il n'y ait pas de canalisation dans le sous-sol. Parce qu'en général, les canalisations avec les racines, ça ne va pas tellement bien. Donc on essaye d'en planter le plus possible. D'ailleurs, les places qu'on a réussies depuis qu'on les a faites ne sont pas si mal que ça, puisque j'ai entendu des critiques au moment de leur conception, mais j'entends plus de critiques aujourd'hui pour certaines qui sont mises depuis un certain temps. Je pense avec Gérard Collomb, la première place qu'on a fait ensemble en 2001, la place Gardon. Je me rappelle des débats qu'on a eus. Aujourd'hui, la place Gardon, personne n'en parle. Je prendrai la place Gérard Genevès. On en a entendu pendant le temps des travaux que ça allait tout faire, qu'il n'y a pas de place d'arbre. Aujourd'hui, la place, elle est finie. J'entends plus personne qui rouspète sur la place Gérard Genevès. Eh bien, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les travaux que nous allons faire dans le centre de place de Mâcon, place Poissonnière et place aux herbes, j'ai jamais nié que ça posait des problèmes aux commerçants, que ça poserait des problèmes. On l'a jamais nié, mais les casiations étaient foutues. Donc, il fallait bien de toute façon les changer, quoi qu'on fasse. Donc, à partir de ce moment-là, il vaut mieux refaire les places. Dans un an ou deux, une fois que tout sera fini, que tout sera planté, on verra qu'on n'en entendra plus parler, parce que pour les gens, ça rentrera dans le paysage. Il en est de même dans le circuit touristique que l'on veut faire de la cathédrale Saint-Vincent. Combien de fois j'ai entendu, il faut réparer la cathédrale Saint-Vincent? Oui, ça coûte 6 millions. Encore faut-il trouver l'argent. Ben les 6 millions, j'ai le regret de vous dire, puisque je sais que vous allez être extrêmement déçus, qu'on les a trouvés. On les a trouvés par l'inscription au plan. Et je remercie le député qui est à côté de moi, parce que c'est lui qui est intervenu auprès des préfets de Saône-et-Loire et de préfets de région pour que le seul projet de la Saône-et-Loire qui figure au plan quinquennal de la France sur ces bâtiments-là, c'est le dossier de Mâcon. Et on l'a complété avec des subventions de la région, du département qui vont arriver. Et surprise, cerise sur le gâteau, l'opération de Stéphane Bern nous retient comme première opération régionale, qui sera une subvention de l'ordre de 400-500 000 euros qui va arriver, donc en gros 10%. Et on va se débrouiller avec Hervé Reynaud, avec Claude Canet, qui sont ici mes collègues au Conseil Général, pour faire que dans le dossier des équipements touristiques et surtout des équipements architecturaux du département, on puisse être inscrit pour une somme extrêmement importante. Et je sais qu'on se battra tous les trois, avec bien évidemment aussi Macolistière, maire de Charnay. Pour les autres équipements, effectivement, j'ai toujours dit que le meilleur politique sociale pour moi, c'était l'emploi. Donc on va s'y employer et on va accompagner l'emploi avec nos divers budgets. On va l'accompagner aussi sur les écoles, puisque avec Catherine Carvillier, on va faire un certain nombre d'équipements qui vont permettre une révolution énergétique des bâtiments, donc une meilleure qualité de vie des enfants dans ces écoles, et puis surtout d'avoir des écoles qui correspondent tout à fait au goût du jour. On aura des investissements dans les quartiers en difficulté, que ce soit l'Égotria avec l'arrivée de France Service, de la Maison de la Justice et du Droit, d'un local pour les associations locales. Il y aura bien sûr toute l'opération qui va ressembler à celle de Marbais, qui là aussi aura beaucoup d'arbres, beaucoup de plantations, qui sera à la chaînée. Donc c'est ce budget-là qui va se faire. Et là, encore une fois, en respectant les grandes données financières que j'avais demandé au service, c'est de ne pas augmenter les impôts et de ne pas augmenter les tarifs sociaux. Je vous ferai aimablement remarquer que les tarifs sociaux n'ont pas bougé depuis 2016. Je dis bien 2016, ça fait donc que ça va faire la septième année. Ce qui est une bonne chose pour les Mâconnais, ce qui montre qu'on gère bien la ville, puisqu'on peut équilibrer nos budgets en laissant ça. Voilà pourquoi ce soir, je vous le dis très honnêtement, ce budget est un budget dynamique qui va permettre à la ville de Mâcon de continuer l'expansion qu'elle a dans une certaine qualité de vie. Je remercie les services qui y travaillent tous les jours, parce que pour eux, c'est un peu compliqué aussi. Ils lancent les appels d'offres au fur et à mesure, ils font la partie technique, ils surveillent, ils font la partie financière, ils font la partie juridique. Et je crois pouvoir dire que nous pouvons, et je suis très heureux ce soir, de vous présenter ce budget primitif qui correspond tout à fait aux aspirations de la majorité et aux choix des citoyens et des citoyennes de la région mâconnaise qui nous ont élus pour cela. C'est pour ça que je dis, on correspond tout à fait aux voix que nous avons obtenues. Et c'est pour ça, mes chers collègues, que je vous présente avec grande satisfaction ce budget primitif 2023 de la ville. Quels sont ceux qui s'y opposent ?
Excusez-moi.
Le vote est parti.
J'ai toujours pas de réponse.
Non, si, je fais ma
réponse. Ah non, j'ai pas de réponse. Enfin, le vote est parti. On parle pas la même langue, mais...
Quels sont ceux qui s'y opposent ? Une voix, deux voix, cinq voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Il est donc adopté. Mes chers collègues, je vous en remercie.